Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute.
Bonjour à tous, journée de deuil national en Algérie, mais une journée de lutte contre les incendies de forêt qui se poursuivent. 69 Algériens sont décédés sous les flammes qui sévissent aux abords de la région de Tizi Ouzou. La Kabylie est victime d'incendies qui sont tout à fait majeurs. Il s'agirait de départs coordonnés intempestifs, donc criminels. Les autorités d'Alger promettent qu'elles vont sévir sur le terrain législatif de telle façon à ce que les peines soient absolument exemplaires à l'encontre de toute personne essayant de mettre le feu. Donc journée de deuil national, le bilan provisoire fait état de 69 victimes. La solidarité internationale s'exerce, alors elle est à la fois politique, beaucoup d'appels à l'adresse des autorités d'Alger, des appels de soutien proposant de l'aide ou simplement exprimant sa solidarité avec le peuple algérien. Et puis il y a des gestes précis qui ont été faits, le Maroc, la France, l'Union européenne qui propose des canadairs aux autorités algériennes, libres à elles d'accepter ou de refuser ensuite les offres qui sont formulées. Mais c'est vrai que les images qui nous sont parvenues d'Algérie sont absolument bouleversantes. Il y a cette image absolument terrible d'une enfant qui est assise dans une voiture, elle pose son visage à la fenêtre et derrière on voit une forêt tout à fait embrasée avec une fumée épaisse qui doit certainement saisir les poumons. Il y a tous ces gens qui ont tout perdu. Est-ce que les assurances vont fonctionner? Comment ces gens vont-ils faire pour vivre durant les prochains jours, les prochaines heures? Où leur fournir de l'eau, de la nourriture? Où vont-ils dormir ce soir? Ce sont des questions éminemment urgentes. Il y a aussi la solidarité des Algériens qui habitent à l'étranger. Ils étaient déjà là au moment du Covid-19, ils étaient déjà dans l'action, dans l'entraide. Ils le sont encore à l'occasion de ces terribles incendies de forêt, sachant que donc pour l'instant, sur le terrain, la lutte continue contre les flammes. La Tunisie également lutte contre les feux de forêt, mais dans une moindre mesure. Et heureusement, ce sont 18 feux d'origine inconnue qui ont fait des dégâts dans les forêts tunisiennes. C'était au mois de juillet. Là, il y a eu des départs de feux au cours de ces dernières heures. Pour l'instant, la situation est sous contrôle, sachant que les autorités tunisiennes, comme les autorités algériennes d'ailleurs, vont réviser leur législation. Actuellement, une personne qui allume un incendie de forêt de façon intentionnelle est passible d'une peine de 20 ans d'emprisonnement, ceci devant le code forestier et le code pénal tunisien. En Algérie, on en est pour l'instant à des peines de 30 ans de prison, mais il y a beaucoup de réactions de la classe politique algérienne et tunisienne qui demandent à ce que le code pénal de chaque pays soit adapté et qu'il soit dissuasif à l'encontre de toute personne qui aurait la tentation de provoquer des drames environnementaux et des drames humains, puisqu'il y a des gens qui vivent dans ces espaces forestiers. Les dissuader de passer à l'acte. Et le Maroc, on s'en doute, n'échappe pas à ces incendies de forêt qui ont touché le nord de la Méditerranée aussi, souvenons-nous de la Turquie et de la Grèce. Mais là, ce sont 250 palmiers. Cela s'est déroulé dans la communauté de Tazmout, donc au sud du pays. 250 palmiers qui ont été enflammés, qui sont aujourd'hui calcinés. Voilà pour les incendies les plus récents auxquels on assiste au Maroc, même si la situation est sans commune mesure avec ce qui se déroule actuellement en Algérie. On reste au Maroc avec la fin de la visite du ministre des Affaires étrangères israélien qui était en visite dans le royaume. Il a rencontré son homologue Nasser Bourita. Trois accords ont été conclus. Ils visent à renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans trois domaines: politique, culturelle et jeunesse et sport. En Libye, c'est difficile, mais on finit par y arriver à force de ténacité politique après la réouverture de la route côtière entre l'Est et l'Ouest du pays. Première bonne nouvelle, ces camions à essence qui sont arrivés, ils étaient en provenance de Misrata, Ils sont allés jusqu'à Sirte pour réapprovisionner des stations essence. Donc cela veut dire à travers ces quelques camions de fioul qu'il y a du commerce, il y a de la relation qui commence à s'instaurer entre l'Est et l'Ouest, l'Ouest et l'Est du pays, ce qui est tout à fait positif. La Libye qui est en difficulté malgré tout face au Covid-19. Un centre de vaccination a été inauguré par le ministre de la Santé à Tripoli. C'est vrai qu'on a du mal malgré tout à avoir une vision précise de ce qu'est l'évolution de la pandémie parce que tout le monde ne se teste pas hein, puisque la Libye reste malgré tout un théâtre sanitaire complexe à aborder. Mais les autorités de Tripoli font leur possible. En tout cas, ouverture de ce centre de vaccination. Et puis en Mauritanie, on parle également de vaccination avec la préparation, nous annoncent les autorités gouvernementales, d'un vaste plan, d'une vaste campagne de vaccination contre le Covid-19. A priori, d'après les dates qui sont annoncées, cela pourrait commencer jeudi prochain. Le Mali a décidé d'extrader deux terroristes qui seront jugés aux États-Unis. L'un est mauritanien, Ould Ahmed, qui était recherché par les Américains pour avoir participé à deux attentats d'importance en août 2015 l'hôtel Biblos, puis il avait récidivé au mois de novembre de la même année contre l'hôtel Radisson Blue. C'est un homme qui a été un des anciens lieutenants de Mokhtar Ben Mokhtar. Et puis le Malien se nomme Ould Baba, il a été extradé, il va être extradé après avoir exécuté deux attentats terroristes, c'était en janvier et en mars 2016 sur les villes de Ouagadougou et du Burkina Faso où un citoyen américain a été tué. C'est la confusion en Afghanistan sur le terrain avec toujours beaucoup de poussées militaires des talibans qui sont en train de forcer la ville d'Herat à tomber. En tout cas, c'est tout le sens des combats qu'il y a actuellement. Une chose est certaine, c'est que les Américains, quoi qu'il en soit dit actuellement sur le fait qu'ils ne viennent pas en aide aux autorités de Kaboul, en tout cas pas assez, mais ça c'est normal, va-t-on dire, puisqu'ils ont décidé de quitter le pays. Il n'en reste pas moins que se pose la question de l'après, d'ores et déjà, la question de l'aéroport précisément. Précisément, la sécurité de l'aéroport international de Kaboul, les Turcs pourraient s'en occuper. Le président Erdogan se dit aujourd'hui prêt à discuter, à parler avec un responsable taliban, sans préciser lequel. Les Turcs qui semblent vouloir rester dans la perspective d'une défaite des autorités de Kaboul à la faveur d'une victoire des talibans. C'est le scénario qui, sauf surprise, est partagé par l'ensemble des analystes qui suivent la poussée militaire inexorable des forces talibanes vers la capitale afghane. Asie majeure, mineure, dièse ou bémol, Asie mute. Nous faisons escale aujourd'hui en Iran pour étudier cette équipe gouvernementale du nouveau président iranien Ebrahim Raisi, qui a été conforme dans ses choix à la réputation qui est la sienne, à savoir d'être un homme tout à fait dur, intransigeant, dans la droite ligne de Ali Khamenei. Pour son poste de ministre des Affaires étrangères, c'est un poste qui est toujours très sensible, très regardé, parce que c'est l'homme qui va porter les couleurs de l'Iran à travers le monde, qui va défendre la République islamique d'Iran. Il a choisi, le nouveau président, un diplomate très anti-occidental. Il s'agit de Hossein Amira Abdollahian. C'est un homme qui est perçu comme étant intransigeant. Sur le dossier du nucléaire iranien, il ne semble pas prêt à faire des gestes d'ouverture à l'égard de tous ceux qui réclament une relance des négociations, qui ont commencé bien évidemment, mais on voudrait que cela aboutisse à quelque chose. Et pour l'instant, il n'y a pas de solution qui semble se dégager. Ce ministre des Affaires étrangères aurait des liens étroits avec les gardiens de la Révolution, cette unité d'élite qui a d'ailleurs été créée dès 1979, au moment même de la Révolution iranienne. Ils ont été créés, ces gardiens de la Révolution. Leur première mission était de protéger le système qui allait être mis en place par le régime démocratique. Et aujourd'hui, les gardiens de la Révolution, c'est vraiment une force d'élite qui va porter le message de l'Iran à travers le Proche-Orient et même au-delà, à travers le monde. Cela veut dire aussi le fait d'avoir choisi un profil comme celui-ci, que le nouveau président iranien accorde de l'importance aux questions régionales, à sa politique étrangère, puisque ce ministre a déjà effectué ce poste. Il était vice-ministre des Affaires étrangères en charge des affaires arabes et africaines, c'était entre 2011 et 2016. Il a également été en poste à Bagdad entre 1997 et 2001. Donc il connaît bien la région, les enjeux, les difficultés, ce sur quoi l'Iran peut compter, ce sur quoi l'Iran risque d'être en difficulté. En tout cas, c'est une équipe gouvernementale gouvernementale qui est tout à fait intransigeante, qui vient donc épauler le président Raisi dans les fonctions qui sont les siennes. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.